chères cliniciennes et cliniciens, merci d'avoir cliqué sur le podcast Clic Physio. Cette série de 10 balado-diffusion vous permettra de vous plonger tête première dans l'univers de la téléréadaptation avec divers acteurs influents du milieu. Laissez-vous charmer par cette modalité d'intervention novatrice qui nous permet de tisser un service sécuritaire, inclusif et de qualité par l'entremise de la toile du web. À un clic de nos patients, vous découvrirez l'importance de ce juste compromis qu'offre la téléréadaptation. Bienvenue sur le podcast Clic Physio, une initiative étudiante dans le cadre d'un projet de maîtrise en physiothérapie. Aujourd'hui, on va à la rencontre de Dalia Carey, professeure agréée à l'École de réadaptation de l'Université de Montréal, responsable de créneau au pavillon LINSEE, chercheure régulière au CRIR Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal. Cette physiothérapeute porte ses intérêts de recherche sur l'évaluation et l'implantation des technologies et des innovations en réadaptation. C'est avec passion qu'elle a décidé de nous faire un partage de sa pratique entourant la téléréadaptation. Bon épisode à tous! Bonjour.
Bonjour.
Donc, merci beaucoup de prendre de votre temps pour discuter avec nous de votre passion en lien avec la téléadaptation, votre pratique pour un peu éclairer les cliniciens à voir comment est-ce qu'ils pourraient implanter le tout, mais surtout voir les aspects qu'ils vont en tirer, que ce soit de manière hybride ou tout simplement plonger tête première pour faire des suivis à travers tout ça. Donc, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invité.
Pour les gens qui n'ont pas eu la chance de vous croiser sur le plan professionnel ou lire les différentes publications que vous avez faites, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît?
Oui, donc je suis Dalia Carey, je suis physiothérapeute de formation et présentement professeure au programme de physiothérapie de l'Université de Montréal et chercheure au CRIR, le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain. Donc, je travaille en clinique un petit peu et beaucoup en académique, en recherche, surtout dans le domaine des innovations et des nouvelles technologies en réadaptation, leur développement et leur implantation en clinique, beaucoup la téléréadaptation et la réalité virtuelle.
Puis parlons-en l'implantation d'une telle technologie. Qu'est-ce que vos trouvailles, ou du moins, qu'est-ce que vous avez réussi à mettre de l'avant avec le fait de mettre cette technologie-là entre les mains des différents cliniciens?
Je pense que en l'utilisant, on découvre d'autres avenues potentielles pour l'utiliser, donc pour rencontrer des besoins non comblés à cause, par exemple, de certains manques de ressources ou de la difficulté à rejoindre certains patients. Et c'est sûr qu'on rencontre aussi certains défis, des obstacles, et ça nous permet de réfléchir qu'est-ce qu'on doit mettre en place si on veut que réellement ça soit utilisé en clinique ou dans le système de santé. Parce que c'est une chose de le développer en laboratoire ou en milieu de recherche, puis autre chose de l'utiliser dans la pratique.
Puis, qu'est-ce que vous trouvez par rapport à cette transition-là, le pont entre le milieu plus expérimental dans les bureaux de recherche à la clinique? C'est quoi les éléments qui manquent pour réussir à faire le tronçon, ou du moins, qu'est-ce qu'on aimerait réussir à faire pour que cette transition-là se fasse de manière plus facile?
Mais ce qui serait aidant, puis ça s'en vient, c'est que certains équipements, même de base, ça n'a pas besoin d'être des équipements très poussés parce que maintenant, regarde, on est capable de se parler avec des équipements assez simples que presque, pas tout le monde, mais beaucoup de gens ont. Donc, de donner accès facilement à la technologie, à l'Internet, à de l'Internet de qualité. Et justement, ça fait partie de ce que les gouvernements sont en train de mettre en place au niveau équité, donc pour donner accès à tout le monde, à l'accès à un Internet de bonne qualité pour avoir accès à ces services-là. Donc, si déjà on avait des équipements facilement accessibles et fiables et un Internet fiable, ça faciliterait, je pense. Et je pense aussi les mentalités changent parce que c'est sûr, avec la pandémie, pas de choix, tout le monde est beaucoup plus familier avec tout ce qui est la télémédecine, les télésoins et la téléréadaptation aussi par conséquent. Donc, il y a des changements aussi dans les perceptions comme quoi on est capable d'offrir des services de qualité, quelque chose qu'on savait déjà en recherche, on l'avait assez bien documenté dans plusieurs cas, mais qu'on commence à voir que la population générale commence à apprécier ça aussi.
Puis, avec l'utilisation des différentes technologies, vous avez fait un penchant vers la réalité virtuelle avec les patients sous forme de jeu. Cet aspect ludique-là dans les suivis, qu'est-ce que vous trouvez que ça l'a amené par rapport peut-être à la progression des patients, dans le fait que peut-être les cliniciens trouvaient ça plus intéressant à utiliser? C'est quoi les traits que vous avez réussi à tirer de vos différentes recherches?
Ben, ce qui est intéressant avec la réalité virtuelle, premièrement, la réalité virtuelle, il y a différentes technologies et de plus en plus, il y a des technologies assez accessibles, facilement utilisables. Alors, au début, c'était des très gros équipements en laboratoire, en centre de recherche, avec des grandes salles. Mais de plus en plus, on a des lunettes portables, on a des jeux vidéo avec de la Kinect, par exemple, et des jeux qui peuvent s'utiliser sans manette, sans avoir nécessairement à tenir quoi que ce soit. Donc, plus, disons, pertinent pour une clientèle en réadaptation. Donc, par exemple, une personne avec un AVC, ben, ça pourrait être difficile de tenir une manette si elle avait à tenir quelque chose. Si elle n'a pas besoin de tenir quoi que ce soit et que la caméra capte ses mouvements, elle peut utiliser ces jeux. Ce que les jeux permettent, oui, l'aspect ludique, et avec l'aspect ludique, ça permet de faire plus de répétitions, une réadaptation plus intensive. Alors, par rapport à, par exemple, un programme d'exercice qu'on pourrait donner de façon plus traditionnelle, de faire, je sais pas moi, 3 séries de 10 ou d'un exercice, par exemple, on peut faire 60, 80 répétitions dans un environnement ludique pendant quelques minutes sans le réaliser nécessairement. Et c'est cette intensivité, surtout pour les conditions neurologiques, qui est très importante pour la réadaptation et l'optimisation des soins.
Puis cette accessibilité de mettre un pied dans l'univers des patients en ayant une fenêtre d'ouverture sur leur milieu dans lequel ils vivent. Faire ça surtout avec la clientèle que vous avez mentionnée, qu'on sait qu'une atteinte au niveau, par exemple, d'un AVC ou plus en neurologie, bien, la fenêtre d'intervention est très courte. La récurrence de nos traitements est favorable au pronostic. Qu'est-ce que vous trouvez que ce lien-là avec la réadaptation facilite peut-être les suivis ou les prises en charge?
Alors, dans plusieurs contextes, ça peut faciliter un suivi plus intensif, comme j'ai mentionné. On n'a pas nécessairement toujours besoin d'avoir nécessairement le clinicien présent. Alors, on pourrait penser, par exemple, des visites 2 ou 3 fois par semaine et entre-temps, l'utilisation de la réalité virtuelle. C'est un exemple pour avoir cette intensité. Et oui, en effet, il y a une fenêtre. Donc, c'est important l'intensité pendant la fenêtre. Mais on sait aussi que la récupération, elle continue après aussi. Donc, c'est tout à fait pertinent pour d'autres clientèles qui ne reçoivent plus de services dans le contexte actuel, dans nos services actuels. Donc, par exemple, des conditions plus chroniques ou des conditions qui dégénèrent. Donc, il y aurait des suivis de temps en temps. Oui, des suivis, mais aussi, oh, tout d'un coup, on a besoin d'augmenter l'intensité de réadaptation un petit peu. Pas nécessairement facile d'accéder aux soins. Soit pour le patient, c'est pas facile pour se déplacer ou bien il y a un manque de ressources à proximité. Donc, ça pourrait être intéressant d'utiliser la téléréadaptation aux différentes phases de la réadaptation. De la phase aiguë, jusqu'à la phase en communauté ou en phase plus chronique.
Et pour les cliniciens qui sont peut-être moins envieux de mettre un pied dans cet univers-là, qu'est-ce que vous leur diriez par rapport à cette utilisation-là pour faire leur suivi?
Alors, une des, disons, des croyances qu'on a comme clinicien, c'est que les patients, ils apprécient moins l'intervention quand elle est à distance. Et je vous dirais, nos recherches nous montrent le contraire. Ils apprécient énormément avoir accès aux services. Ils trouvent que ce sont des services de qualité. Ils sont satisfaits. Donc, si une des limites, c'est de penser que le patient préférerait être en personne, dans certains cas, c'est vrai, mais c'est pas toujours le cas. Et il faut penser que parfois, ces patients-là ont besoin d'être accompagnés. Des fois, ils vont être accompagnés pour leur service par des aidants qui ont eux aussi des incapacités. Alors, ça peut être très demandant de se rendre à des services de réadaptation de façon régulière pour que ça soit optimal. Puis, je pense que vous l'avez mentionné au début, un mode hybride, je pense que ça serait probablement la meilleure façon de se plonger là-dedans. Donc, de peut-être faire les premiers contacts en personne, mais quand c'est possible, si on pense à la pandémie, puis au début de la pandémie, c'était vraiment pas possible. Et donc, de ne pas dire, bon, on n'en fera pas parce qu'on peut pas faire notre première rencontre en personne, mais de faire les rencontres à distance, mais de prendre note de qu'est-ce qu'on aura besoin d'évaluer peut-être en personne lorsqu'on pourra. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et de pas avoir peur d'essayer, puis de modifier, de changer. Il faut être un peu créatif, c'est sûr. De plus en plus, il y a de la recherche aussi sur les soins à distance. Donc, quels outils on peut utiliser, comment les adapter. Donc, il y aura de plus en plus d'évidence, mais même entre-temps, je pense qu'il y a énormément d'outils disponibles. Puis, on est formé pour le faire, on n'est juste pas habitué. Je pense que ça s'en vient lentement, mais j'encouragerais les gens à l'essayer lorsque c'est pertinent, lorsque ça permet d'offrir un service à quelqu'un qui n'aurait pas eu le service, par exemple.
Puis, par rapport au suivi, on pense souvent de soit d'évaluation ou de test-retest avec les clientèles que vous avez travaillées, ou du moins, pouvez-vous donner des exemples de choses que vous avez réussi à adapter ou vous pouvez encourager les gens à dire, bien,
Oui, ça se fait en clinique, mais là, si repenser de cette manière-là, ben c'est facilement adaptable ou du moins on peut avoir des données qui sont intéressantes pour réussir à optimiser la prise en charge.
Ben, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait les soins à distance, des soins virtuels à distance, on est dans le domicile du patient ou le milieu de vie ou le milieu scolaire ou le milieu de travail. On voit des choses qu'on n'aurait pas vues en personne s'il venait en clinique. Donc, ça permet même de rajouter certains éléments à notre évaluation et de suggérer certains programmes d'exercice qui utilisent des équipements à domicile qui seront donc plus faciles à effectuer et la personne sera plus enclin à adhérer parce que c'est faisable dans leur domicile. Donc, des fois, ça va pas être nécessairement le cas qu'on va faire toutes les mêmes évaluations, mais on va en choisir certaines et peut-être qu'on en fera d'autres qu'on n'aurait pas pu faire si on voyait pas le domicile.
Puis, en tant que chercheur, vous avez différents étudiants qui sont sous votre aile. Qu'est-ce que vous diriez peut-être aux différents cliniciens qui ont aussi le chapeau d'enseignant par rapport à mettre ou agrémenter leur approche en mettant quelques parcelles ou informations vers l'utilisation de cette technologie-là pour passer d'une phase, oui, très clinique, mais de dire « Ah, mais ça pourrait être fait de telle manière pour peut-être les aiguiller, à orienter les étudiants à dire que cette façon-là peut être faite aussi en suivi virtuel. »
Oui, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que l'aspect de la téléréadaptation doit être vu comme un autre outil dans notre trousse d'outils qu'on a pour offrir les services de réadaptation. Et je pense que ça doit être plus intégré à la formation et pas juste vu comme, disons, un quelques minutes ou une heure dans la formation, parce que sinon, c'est sûr qu'il va rester ces barrières-là à l'utilisation. Et on voit que ça peut être utilisé. Donc, on sait que le système, présentement, il y a des lacunes, pas juste notre système de santé, partout dans le monde. Et il faudrait, ça serait, je pense, c'est notre devoir de penser comment est-ce que ces technologies-là peuvent venir combler certains de ces besoins. Et donc, si on l'intègre un peu partout, comme vous l'avez dit, c'est mentionné, donc ça devient un peu plus un réflexe d'y penser parmi notre trousse d'outils.
Dans les années à venir, vers où vous orientez pour continuer à mousser la téléadaptation pour que peut-être mieux comprendre ou pousser au-delà son utilisation?
J'ai comme deux directions. Un qui est un peu plus dans le développement et l'évaluation de la technologie, donc des projets où je combine la téléréadaptation et la réalité virtuelle pour qu'on puisse voir la personne en train d'utiliser son jeu, adapter les jeux, puis ensuite la personne peut l'utiliser entre les séances. Donc, c'est sûr qu'avec ça, avec le développement des technologies, ça va continuer à évoluer. Je pense que ça serait bien d'intégrer l'intelligence artificielle à ce genre de technologie, éventuellement, pour qu'il y ait certaines, par exemple, pour que les exercices soient progressés de façon un peu plus automatique entre les séances avec le physiothérapeute. Et l'autre volet qui m'intéresse beaucoup, c'est le côté éthique et équité. Donc, de réfléchir à comment on peut utiliser ces technologies pour améliorer l'accessibilité aux soins pour tous et comment on peut aussi réfléchir, lorsqu'on offre ces services, qu'on offre des services qui sont éthiques et équitable. C'est pas nécessairement dans notre nature, on n'est pas habitué à réfléchir de cette façon-là. On est habitué à nos services en personne. Donc, de réfléchir quand c'est à distance, de quoi il faut tenir compte pour s'assurer qu'on offre des services éthiques et équitables.
Puis pour les cliniciens qui aujourd'hui ont attrapé quelques informations qui les intéressent, bien évidemment, je vais mettre en annexe les différentes recherches que vous avez faites. Avez-vous des ouvrages, des conférences ou des éléments que vous pourriez nous pister à aller fouiller davantage?
Je pourrais vous donner des liens vers quelques articles. Je pense peut-être, ça dépend si c'est le timing sera bon, mais on va à un moment donné lancer un sondage pour voir l'utilisation de la téléréadaptation présentement. Donc, comment est-ce que c'est utilisé présentement dans les soins de physio au Québec? Quels sont les enjeux? Quels sont les facilitateurs, etc.? Quelles sont les expériences vécues? Donc, on pourrait mettre ça. Puis, si les gens l'ont utilisé, ben, ça pourrait les intéresser à accéder au sondage.
Excellent. Si les agendas concordent, c'est certain qu'on va partager le tout. Je voulais vous remercier d'avoir pris le temps d'explorer une facette de vos recherches puis un monde intéressant dans lequel vous êtes plongé quotidiennement. Donc, je vous remercie beaucoup. Si jamais les auditeurs voulaient avoir plus d'informations, je vous invite à aller consulter les recherches de professeur Carey puis son équipe. Puis, je vous souhaite une bonne continuité.
Les gens peuvent me contacter par courriel sans problème.
Excellent. Bien, je vous souhaite une bonne continuité.
Merci beaucoup, vous aussi.
Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode réalisé par Click Physio, un podcast où vous faites la rencontre de la téléréadaptation par l'entremise de divers acteurs du milieu de la physiothérapie. À un clic de vos patients, apprenez à apprécier la juste valeur de la téléréadaptation. Bref, si vous avez aimé le tout, n'hésitez pas à partager notre contenu sur vos diverses plateformes et de commenter, aimer nos différentes publications. Nous vous invitons également à vous joindre gratuitement à notre forum de discussion membre sur notre site web Click Physio pour en apprendre davantage sur la téléréadaptation. Au plaisir de vous compter parmi nous.